Cette conférence sur la problématique de la création d'univers, à la fois dans la littérature, mais surtout dans l'univers du jeu vidéo, et donc tout ce que ça représente de réflexion et de méthode, avec donc Stéphane Burat, consultant game designer, et David Calvo, game designer chez Ankama Play.
Bonjour.
Bonjour.
Donc peut-être qu'on pourrait commencer par une rapide introduction sur la différence, sur les différences fondamentales entre la création de mondes, d'univers en littérature et en jeux vidéo.
David. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Un peu bourré, désolé. Alors, je sais pas, enfin, c'est une question un peu difficile comme ça, parce que finalement, il y a plein de manières de faire les choses.
Parle bien près du micro.
Il y a plein de manières de faire plein de trucs, donc je vais essayer de dégager comment moi je vois les choses, parce que j'ai toujours tendance à voir les choses en termes de contexte et pas en termes d'histoire ou de personnage, même si au bout d'un moment les personnages peuvent être importants et que voilà. Ce qui est avant tout important, c'est l'environnement. Et donc c'est pour ça que j'ai pas eu trop de mal à faire le bond vers le jeu vidéo qui est essentiellement basé sur l'environnement. Je dirais que la différence fondamentale, c'est peut-être que un monde, on devrait pouvoir faire la création d'univers dans le jeu vidéo devrait pouvoir permettre de faire à peu près n'importe quoi, et pas simplement ce que nous on a envie qu'un personnage particulier ou qu'une histoire particulière puisse faire. Donc on est obligé d'ouvrir un champ de possible, en fait. Donc on est dans la création de monde, mais on est avant tout dans la création de motifs, c'est-à-dire d'outils qui vont nous permettre d'envisager un maximum de possibilités et de nous autoriser un maximum de liberté à l'intérieur de cette galaxie de fragments comme ça, qu'on va pouvoir assembler à un moment ou un autre. Alors je pense qu'il y a des auteurs de SF qui travaillent comme ça aussi. Quand on regarde des grands auteurs de fantasy qui travaillent des mondes en amont, et finalement, au bout d'un moment, ils se disent « Ah ben tiens, je vais peut-être prendre 3 lignes de ce codex et je vais en faire un bouquin de 2000 pages. » Je pense qu'il y avait déjà cette approche-là. Disons que si je devais prendre vraiment une comparaison à la hache, je dirais que le jeu vidéo, c'est le Silmarion. Voilà. Ce serait une base. Ça ressemble à une bible de jeu vidéo. Voilà. Après, c'est illisible pour le commun des mortels. Je suis en mourir. Moi, j'adore. Hein. Ouais. Mais globalement, c'est une base de travail. Plus qu'autre chose, quoi. D'ailleurs, c'est même pour lui, c'était une base de travail. Ça a été republié derrière, ça a été recompilé, mais c'est une base de travail. C'est un ensemble de choses qui va lui permettre de travailler, parce que finalement, le Seigneur des Anneaux, dans Silmarion, c'est quoi ? C'est 4 pages à la fin, quoi. Voilà. Ça suffit, d'ailleurs.
Est-ce que il y a la même nécessité de création d'univers en littérature et en jeux vidéo ? Quelle est la nécessité dans les deux et jusqu'où elle va, en fait ?
Moi, j'en sais rien, parce qu'en littérature, je crée pas d'univers, quoi. Enfin, tu crées un univers de couleurs, tu crées un univers de motifs, tu crées un univers de sensations, peut-être. Mais moi, j'ai pas envie de créer un monde avec une carte avec marqué colonie de Zurgle et les villes de Schmurt avec la rivière et les plaines sombres, quoi. On s'en fout, quoi. Mais moi, c'est moi. Après, il y a plein de gens qui font ça, et qui font ça très très bien. Mais par exemple, il y avait une conférence juste avant sur les maps dans la fantasy. Et ben, regardez, on y est déjà, hein. C'est ça. C'est-à-dire que même Tolkien, il disait, moi, je fais un récit cartographique. Je ne fais pas un récit narratif traditionnel, c'est que je prends une map et je fais un trajet, et moi j'accompagne le trajet avec des vecteurs, avec des personnages qui sont des vecteurs d'émotion et qui sont des vecteurs de péril. Mais globalement, c'est une visite guidée, quoi. C'est une balade en forêt, quoi. Ce qui a fait chier plein de gens, d'ailleurs. Parce qu'on est dans cette espèce d'obsession du détail, du champignon, de la couleur du tas de feuilles. C'est super trippant, mais après, est-ce que c'est intéressant narrativement? Il y a plein de gens qui trouvent ça absolument une pénibilité totale, quoi. Tu vois?
Si tu permets, j'aimerais répondre à ta première question sur la différence que je vois, moi, dans mon métier, entre la création d'univers pour un roman et la création d'univers pour un jeu vidéo. En fait, c'est ce que décrivait un peu David. Lorsque tu crées un univers pour une histoire statique, pour un roman, pour un film, c'est un univers qui va que tu déroules. que tu déroules pour raconter ton histoire. Et en général, tu peux le modifier comme support de ton histoire. La carte du Seigneur des Anneaux, elle a cette forme-là, parce que bon, vraiment, à Mordor, il faut qu'il y ait des barrières autour, quoi. Sinon, l'histoire ne serait pas intéressante. Que le mal vienne de quelque part d'inaccessible et d'étrange, et que Minas Tirith, ce soit juste en face, et qu'il y ait une grande bataille dans les champs de Pelennor, etc. Lorsque tu fais un univers pour un jeu vidéo, tu ne vas pas travailler du tout dans la même perspective, tu vas travailler dans la perspective de créer des choses que le joueur va utiliser. Donc en fait, plutôt que de faire de la création, on va dire, purement narrative, tu vas faire de la création fonctionnelle. Ton univers, ton mythe, ta carte, elle est là pour l'interaction. Donc au final, c'est le gameplay, c'est l'expérience de jeu qui va tout guider, qui va tout diriger dans ta phase de création, parce que ça ne sert à rien de faire un dieu qui a tel pouvoir ou qui domine tel aspect de la réalité si on ne peut pas s'en servir dans le jeu, si ça n'a pas un sens dans le jeu, si ça ne donne pas des pouvoirs à un monstre, si ça ne donne pas des pouvoirs magiques, si ça n'explique pas quelque chose que le joueur doit comprendre et non pas juste de la narration. Parce que sinon, on perd ce qui est spécifique au médium du jeu vidéo, qui est l'interaction. Si le Marion, c'est un peu hard, quoi, parce que c'est beaucoup moins structuré que... Enfin, c'est une histoire, quoi, c'est des bribes d'histoire qui créent un mythe. Je comprends que ce soit une approche que tu apprécies. Toi, moi, en tant que game designer pur, j'aborde cet exercice avec d'un aspect systémique beaucoup plus profond. J'essaye de voir comment mon panthéon, comment ma mythologie va se traduire en jeu, en élément de gameplay. Est-ce que ça va être un pouvoir pour les persos? Est-ce que ça va être un thème pour un niveau? Des choses comme ça.
Probablement la raison pour laquelle pas mal de gens pensent que le jeu vidéo n'a pas de fond. C'est-à-dire que tout est là pour servir l'expérience là, mais il n'y avait pas de profondeur, comme si ce qu'on appelle le backstory, qui devient un peu la tarte à la crème d'écriture en jeu vidéo, était là finalement pour servir une fonction décorative. C'est qu'elle soit là finalement ou qu'elle soit pas là, on s'en fout, quoi. Je parlais de Katamari Damacy hier, un jeu que j'adore. Bon, Katamari Damacy. On n'a pas besoin de savoir où on est, on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe, même s'il y a un dieu, même s'il y a des choses. Finalement, ça n'a aucune importance. Et si jamais il y avait quelqu'un derrière qui disait non, mais c'est important, il faut que le monde, on sache exactement où on est, ce que c'est le monde contemporain, qui c'est ce dieu, qui c'est. Finalement, quelle différence ça ferait en termes de gameplay, quoi. Et c'est là où tu as raison. Mais par rapport au Silmarillion, ce que je voulais dire, ce qui était important, c'est que on peut envisager les choses de manière non narrative dans la création d'un univers de jeux vidéo. Voilà. Alors qu'il me semble que l'écriture d'un bouquin se fait avant tout avec un souci de personnage, se fait avant tout avec un souci de quelque chose à dire, du sens d'une histoire, quoi. C'est pas le plus important jeu vidéo, quoi. C'est pas le plus important. C'est l'histoire vient de ce qu'on fait, en fait.
Ce qui est vraiment très intéressant, parce que moi aussi je suis fan du Silmarillion, j'ai commencé à lire par le Silmarillion. Donc en fait, ouais, tu te retrouves quand tu lis Tolkien, et quand tu lis le Seigneur des Anneaux, je veux dire, et tu te retrouves dans des lieux et tu connais le sens qu'ils ont parce que tu as lu le Silmarillion. C'est une expérience vraiment différente de se retrouver dans des ruines et puis on sait pas, quoi, les piliers d'Argonath. Ouais, bon, c'est deux grosses statues de... C'est quoi? Des rois? On sait pas. Mais si tu sais vraiment ce qui s'est passé, ce que ça représente, la bataille, machin, etc., soudainement, c'est beaucoup plus profond et intéressant. Mais c'est quelque chose de très difficile à faire en jeu vidéo. Enfin, ce qu'il faut comprendre, puisque tu parlais de la différence, c'est qu'on peut pas raconter les mêmes histoires. On peut vraiment pas raconter les mêmes histoires. Ça n'aurait aucun intérêt de raconter cette histoire de légende qui s'incarne dans des ruines en jeu vidéo parce que c'est pas interactif. Parce que on n'a pas besoin de ça pour créer une expérience intéressante. Tu parlais de Katamari Damacy. Ouais, c'est cool de faire des grosses boules qui deviennent des étoiles. Et c'est une partie du charme du jeu. Mais en effet, ça n'affecte en rien l'expérience de jeu elle-même. Donc en fait, on ne crée pas les mêmes histoires, on ne crée pas les mêmes mondes, on ne crée pas les mêmes expériences. Parce que c'est un médium différent, on peut faire des choses totalement différentes. C'est-à-dire vivre la construction des piliers d'Argonaute, tu vois, au lieu de savoir que c'est une vieille légende complètement oubliée. Quoi.
Et alors, du coup, je me pose la question de, est-ce que pour vous, les centaines de pages d'écriture qu'on peut avoir dans les RPG les RPG classiques basés sur la licence Donjons et Dragons ou autre, ou dans WoW ou tout ça, est-ce que c'est pas une espèce de complexe du jeu vidéo de pas avoir ce background narratif hein,
Ah ouais, enfin pour moi, totalement. Moi, je trouve ça d'un ennui à mourir. Moi, ça me Baldur's Gate, ça m'assomme, quoi. Je veux dire, comment. On s'en fout de des pages et des pages et des pages de lecture, de background. À quoi bon exemple, Mass Effect. J'adore Mass Effect. Dans Mass Effect, à un moment donné, il y a des backgrounds sur toutes les planètes gazeuses. C'est super intéressant. Alors, on a toutes les planètes gazeuses qui fonctionnent comme ça. Alors, elles tombent sur elles-mêmes, c'est trop lourd, machin. On s'en fout. Enfin, honnêtement, on s'en fout totalement, quoi. Je veux dire, c'est que ce soit là ou pas là. Et je me demande pourquoi, je discutais avec un designer, mais pourquoi t'es payé à faire ça? Quel est le sens du truc? Et en fait, les gens cherchent du contenu. Des fois, ils ont besoin de... Je sais pas, j'en sais rien. C'est une espèce de frustration, peut-être.
Mais attention, parfois... frustration, quoi. Enfin, c'est vrai dans certains cas et dans d'autres pas. C'est-à-dire que t'as Baldur's Gate d'un côté, où en effet, le background, il est là pour... te plonger dans un univers fantastique, tu racontes des histoires épiques, etc. Et en effet, pour moi, c'est pas nécessaire. Mais t'as le pendant de ça, qui est Planescape Torment, c'est pareil, tu as une tonne de texte, mais là, tu dois faire des choix. Le texte t'aide à t'amener dans des positions, des moments de gameplay, des moments de choix où ça a des vraies conséquences.
Mais c'est très rare.
Mais c'est extrêmement rare, c'est pour ça que Planescape Torment reste mythique, je sais pas, 25 ans après, ou 20 ans après qu'il soit sorti.
Je prendrai l'exemple de Demon's Souls, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui est un jeu ultra hardcore. De fantasy, c'est vraiment génial. Ben, y a pas d'histoire, enfin y a rien, y a pas de monde. On s'en fout, tout le monde s'en fout. C'est un gros chevalier. Alors c'est joli et finalement c'est nous qui créons le truc. Tout ce qui nous intéresse, c'est la manière dont on joue dans ce monde-là et comment est-ce que les choses fonctionnent dans ce monde-là. Mais finalement, y a rien. On prend Fallout, le dernier, les Fallout. Y a plus de background, y a quasiment plus de background dans les Fallout. Il n'y a plus que ce qu'on fait. On s'en fout de comment les choses sont arrivées, de ce qui s'est passé. Finalement, y a plus que de l'expérience. Y a quasiment plus rien en termes de backstory, quoi. Et ça, moi, je trouve que c'est pas mal. Enfin, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment, enfin, à se dire, ben, finalement, c'est ce qu'on fait qui devient l'histoire, qui devient le monde, et c'est notre expérience dans ça. On se dit, ah ben, dans ce monde, il s'est passé ça parce que je l'ai fait. Voilà, donc il faudrait peut-être envisager un gameplay qui se déroule comme ça sur des siècles et des siècles et des millénaires, où on se dit, bah tiens, le parti que j'ai fait il y a 3 semaines, qui se passait il y a 10 000 ans, ben, il s'est passé ça. Et alors, on a tous ces branchements qui arrivent, ça sera intéressant peut-être. C'est des pistes qu'on cherche.
Ouais, c'est le genre de choses qu'on peut faire dans un jeu vidéo, c'est en effet avoir une influence sur le long terme. Et c'est ça qui est rare. C'est pour ça que la plupart des jeux, la plupart des choix que tu fais dans les jeux, c'est un effet sur le court terme. Tu tapes sur le monstre il va mourir. Et il y a un monstre de moins dans la pièce. Et quand tu les as tous tués, ça ouvre la porte. Et c'est vraiment au maximum, tu vois, l'influence c'est sur le niveau, tu vois. Tu vas trouver tous les trésors, les choses comme ça, et ça va débloquer quelque chose. D'avoir un jeu dans lequel tu vas construire quelque chose, où tu vas faire un choix qui va avoir une conséquence sur le long terme, ça reste mémorable. Deus Ex, où tu choisis de t'orienter. D'orienter ton personnage avec son expérience vers des stratégies complètement différentes de jeu, c'est devenu légendaire parce que, en effet, les choix que tu fais dès le début du jeu ont une influence jusqu'à la fin du jeu. Et c'est rare. Mais les jeux comme SimCity, les jeux de simulation comme SimCity et comme Civilization, c'est ça. C'est une expérience que tu peux avoir nulle part ailleurs que dans le jeu vidéo. Et il y a plein de gens, enfin, il y a peu de gens qui pensent que. SimCity ou Civilization, c'est des jeux dans lesquels il y a des mondes, où il y a des histoires, mais il y en a. Il y en a parce qu'elles sont induites des règles. Lorsque tu joues à SimCity, tu passes par des phases d'expérience qui sont complètement différentes. Quand tu construis ton premier bâtiment, tu dois lui apporter de l'énergie, etc. C'est quelque chose. Lorsque tu as une mégalopole et que tu dois régler les problèmes de congestion, de trafic, les problèmes d'énergie, les problèmes de pollution, etc., c'est une autre phase. Et il y a une progression naturelle et qui est faite. Les règles ne changent pas. Du début à la fin du jeu, c'est les mêmes règles, mais ces règles sont tellement bien faites qu'elles te racontent une histoire.
Moi, j'allais citer SimCity, mais on pourrait citer Viva Pignata. Moi, j'ai une colonie de pingouins à Viva Pignata que j'ai depuis, je sais pas... deux ans maintenant, et ben, je les connais par cœur, ils ont tous leur nom, je sais quand est-ce qu'ils sont morts, je sais quand est-ce qu'ils sont reproduits, je sais ce qui s'est passé, je sais qu'à quel moment il y a un crocodile qui est arrivé et qui les a tous bouffés, ça a été une catastrophe, que j'ai perdu la moitié de ma colonie, c'est terrible. Si moi, demain, j'ai envie de me dire, bon, ben, je vais raconter l'histoire de ma colonie de pingouins, et ben, voilà, donc c'est moi qui vais faire, parce que c'est mon expérience, et c'est ces choses-là, et moi, je crois que c'est. Enfin, moi, c'est ça que je cherche personnellement maintenant, c'est, moi, ça m'assomme les bibles de l'univers, c'est donnez-moi un monde dans lequel jouer, et peut-être que finalement, le background va venir de tout ce que moi j'ai fait en test avant. Et que je me suis dit, bah tiens, à un moment donné, j'arrête de tester, je vais donner le jeu au joueur, et tout le test va me servir d'histoire et de backstory à l'expérience du joueur, mais qui sera déjà une expérience vécue dans le jeu, en fait. Quoi. Ouais, et là, je pense qu'on est, là, on est en train de, là, on approche peut-être quelque chose d'intéressant.
Mais peut-être ce dont on pourrait parler, parce qu'il y a deux aspects. Il y a donc cette approche systémique, qui est d'écrire des règles qui vont décrire un monde, et qui est un monde intéressant et un monde interactif intéressant. Et ça, voilà, c'est ce qu'on apprend à faire quand on est game designer. Mais il y a le thème de cette présentation qui est aussi quand ce système décrit une mythologie, décrit des symboles. Et ça, c'est une étape de plus. Enfin bon, c'est ce que j'aime beaucoup dans ton travail, c'est que tu as cette double approche d'à la fois vouloir un système cohérent, de gameplay cohérent, mais qui raconte quelque chose. Tu peux parler un peu de ça ? Enfin, je ne suis pas le modérateur. Mais...
Ben, on va en parler tous les deux, puisqu'on a travaillé, enfin, tu m'as beaucoup. Stéphane et moi, on va travailler donc à un moment donné sur la manière dont on allait pouvoir traduire. Je vais parler concrètement parce que bon là, c'est vrai qu'on a parlé de jeu, etc. Je vais parler concrètement de notre expérience sur ce qui s'est passé en Kama. Donc, je vais vous contextualiser le truc un petit peu. Moi, je suis arrivé en Kama il y a 4 ans maintenant, et donc on m'a donné un monde et on m'a dit voilà, il y a un monde. Débrouille-toi avec. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Ben, il faut que tu nous structures, que tu fasses une rétro-mythologie. Ça veut dire que globalement, c'est comme si on vous donnait une cour de récré avec plein de mômes qui se sont inventés des trucs, qui se sont inventés des héros, qui se sont inventés des dieux sans aucune logique. Mais finalement, la mythologie n'a peut-être aucune logique. Hein. La tolérance de la contradiction dans la mythologie, c'est quelque chose d'énorme. Quoi. Il faut admettre que les choses sont contradictoires et paradoxales. Quoi. Et donc, on a cette espèce de bac à sable et il faut lui dire ben, je vais te dire quel est le sens de ce que vous avez fait pendant 10 ans, voilà, avec des motifs. Donc mon travail a d'abord été de trouver des motifs mythiques dans ce qui s'était passé, pas du tout en termes de designer transcendant, disant je suis Dieu et je vais vous dire que les choses sont là, c'est qu'est-ce que vous avez fait naître, et quels sont les symboles et les motifs émergents de votre comportement et des choses que vous avez créées, que je vais pouvoir utiliser pour tisser des histoires d'origine. Parce que le mythe est à fonction de création, à fonction d'origine. Et voilà, donc on a fini par travailler là-dessus, et puis on a fini par dire bon, à un moment donné, il faut raconter le mythe. Il faut que le mythe soit acté en incarnation. Quand je parle de mythe, je ne voudrais pas qu'on se trompe, c'est mon interprétation personnelle du mythe qui est l'intelligence de l'environnement. Voilà, et la manière dont on va nommer l'environnement avec les moyens qu'on a à une époque donnée pour pouvoir faire sens de ce qui se passe et pour pouvoir mettre les choses les unes après les autres. Pour moi, il est très facile d'expliquer la mythologie grecque uniquement en prenant le contexte des volcans. Mais ça, c'est mon interprétation. Hein. Mais je trouve ça assez beau d'envisager le combat des dieux comme le combat des éléments entre eux. Quoi. Voilà. Et donc, on a créé ce jeu qui s'appelle Eyes on the Wakfu, qui est donc quelque chose à l'origine, qui contient rétroactivement tous ces filaments de sens mythologiques et qui moi j'ai identifié qu'on a réinfiltré dans le monde. Et à un moment donné, je me suis retrouvé confronté à quelque chose de terrible, et c'est là où Stéphane est entré en jeu pour me filer un coup de main, parce que moi, je ne comprenais plus ce que je faisais. Parce que c'est comme les chiens qui courent contre les voitures arrêtées, au moment où on ne voit plus rien. Quoi. C'est que j'ai moi-même fait naître des motifs que je ne contrôlais plus. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu une émergence de choses, et je les voyais pas, tout simplement, parce que je ne pouvais pas les voir. Quoi. Et Stéphane est arrivé, et m'a dit, bah, tiens, regarde. Alors, regarde, t'as fait ça, là t'as fait ça, là t'as fait ça, là, t'as fait ça. Et moi, je pouvais pas le voir, c'était impossible. Et je me souviens très bien, tu me disais, regarde Dave, c'est là, c'est sous tes yeux, quoi. Tu le vois pas ? Non, je vois pas, je peux pas le voir. Je vais raconter ça un petit peu, comment toi t'as vu comment
Ok. Moi, lorsque je crée un mythe, lorsque je crée un univers, lorsque j'essaie de faire une mythologie, je pars pas de la même façon que toi du côté onirique, du côté poétique, tout simplement de ma formation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la beauté structurelle. quand on regarde les panthéons des différentes cultures, il y a des choses très remarquables, des jolies symétries, des pendants, des complémentarités entre les dieux, les domaines qui recouvrent, les histoires auxquelles participent, les croisements, etc. Et c'est ça qui me branche. C'est ça qui me branche, c'est la systémique des mythes. Et bon, c'est une approche très, très game design. Hein. Et donc, quand j'ai regardé le travail que tu avais fait, en fait, tu me parlais du côté poétique des éléments fondateurs de ta mythologie, et moi tout ce que j'ai fait, c'est que je t'ai demandé de m'expliquer ce que ça faisait, quoi, comment ça marchait, et c'est là qu'on est arrivé à exprimer tout simplement les règles de ce monde qui, comme tu l'as dit, elles existaient déjà, c'est juste que tu les avais tellement induites que tu pouvais pas les transmettre. Tu les transmettais que par image, et dans ton équipe, vous parliez tous d'images, et c'était ça la difficulté de le faire passer en gameplay.
Ouais, non, c'est très difficile. Enfin, je veux dire, quelle est la fonction de la poésie dans le game design, quoi. On est sur une incarnation de l'image, et de comment est-ce que la vision guide le monde, en fait. Et alors, quelle est la place de la vision dans le jeu vidéo, en fait? Voilà, quelle est la place de la prophétie, de la transe poétique dans le jeu vidéo, et moi j'étais un peu fou, quoi. Je me suis dit, allez, on découvre ce truc là c'est incroyable, allez, on y va, on fonce et on va faire que ça. Et je me suis retrouvé à un moment donné confronté à des joueurs, à des gamins de 12 ans, quoi, qui commençaient à s'intéresser vraiment à ça, qui commençaient à aller chercher, à dire mais alors tel dieu, et là je me suis dit, oh mon dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de... c'est incontrôlable, c'est très dangereux, finalement. Enfin, pas dangereux au sens de créer des sectes ou choses comme ça, mais c'est très dangereux parce que derrière on a une quête de sens, une vraie quête de sens, quoi. Et on a une quête de sens de la part des dieux, de la part des designers, et ça c'est terrible, parce que autant qu'on a envie d'ouvrir un champ poétique pour que tout le monde puisse trouver une interprétation des symboles, une interprétation des signes, qui pour moi est la clé, et la clé de la poésie, quoi, de l'essence des signes, au moment où on arrive aux signes pour eux-mêmes, quoi, quasiment. Et c'est là où c'est dangereux, parce que comment on s'approprie ça? Et le seul moyen de mettre une distance entre ce danger de l'idéologie, de certaine manière, c'est le game design. C'est-à-dire, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire, c'est à quoi ça sert? Concrètement, à quoi ça sert? Est-ce que ça sert à faire la cuisine?
Mais ouais, c'est bête, mais... Le danger, il existe toujours, même dans le game design, parce que, en fait, pour moi, il est encore plus grand que dans un roman, parce qu'on va apprendre aux joueurs à faire. Et si on n'arrive pas à... Si on essaye tout bêtement à faire passer un message... Je parlais tout à l'heure de SimCity. SimCity, donc, un ensemble de règles complètement... magnifiquement fait, distillé de règles d'urbanisme pour qu'on puisse créer une cité et qu'elle soit vivante, qu'elle soit intéressante, qu'il y ait de la dynamique, des dynamiques qui s'entrecroisent, créer un système qui s'équilibre. Mais au final, tout ce qu'on peut faire, c'est créer une ville américaine. C'est vrai, si on veut gagner à SimCity, il faut suivre les règles de l'urbanisme américain. On ne va pas créer une ville européenne, on ne va pas créer... Et donc, le message que ça passe, même si ce n'est pas un jeu qui a une vocation d'avoir un message, si ce n'est comment marche une ville américaine, c'est « Regardez, les villes marchent comme ça ». Or, non. Non, elle ne marche pas comme ça. C'est ce modèle de ville qui marche comme ça. Et quand tu dis qu'il y a un danger je pense que le danger, il existe aussi si on ne fait pas attention à quelles règles on file aux gamins, quoi. Qu'est-ce qu'on leur passe comme message? C'est-à-dire que je sais que tu es super attentif à ça parce que tu as une vision du monde qui est très altruiste, très optimiste.
Peut-être pas altruiste, non.
Ouais, bon, ok, c'est ma perception de ta vision, alors.
Peut-être, j'ai pas l'impression.
Et c'est une bonne chose, c'est-à-dire que on peut, comme tu dis, être très précis. Les éléments fondateurs de ton mythe, c'est l'énergie magique et spirituelle et vitale qui est le Wakfu, et un autre aspect, une énergie qui est la stasis, et c'est la combinaison de ces deux qui crée ton univers. Et la façon dont tu traites ces deux forces dans ton monde, c'est bon pour moi, c'est fondamentalement optimiste.
Alors, je vais parler justement de Webflow Elasticsearch, parce que là, vraiment, on est encore dans l'exemple concret de ce qui se passe. Comment ça fonctionne? Alors, c'est toute une aventure, et je pense qu'à un moment donné, il y a eu un énorme souci, justement, de gameplay, parce que la définition même de ces énergies, était, c'est pas qu'elle n'était pas claire, c'est que depuis le début, elle était soumise à l'interprétation du joueur. C'est expérimental. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le Wakfu si on peut envisager que le monde est mouvement et que tout se transforme? La stasis, c'est le moment où le mouvement s'arrête et que les choses. C'est comme si je prenais ça et voilà. Et la stasis, c'est ça. Et au bout d'un moment, ça s'énerve en fait, quoi. Et ça produit une espèce de radiation d'énervement total. Et si je vous mets ma main, ça explose. Mais c'est libéré à nouveau. Et c'est refluide. Alors, c'est une très belle idée poétique, ça marche très bien, peut-être ça peut très bien marcher. Et les gamins, ils étaient à fond, oui, c'est très bien. Alors, ils se prenaient la tête. J'en parlais l'année dernière sur les forums, sur le mouvement immobile. C'était assez fou de voir des gamins se poser des questions. Mais il y avait des pages sur les forums. Quoi. Moi, j'ai des parents qui sont venus en disant, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, quoi? Vous vous rendez compte? Vous êtes en train de les interroger sur des choses dont ils n'ont même pas conscience eux-mêmes. Mais les gamins, ils s'amusaient. Bon, c'était un jeu de savoir comment c'était possible que les choses bougent tout en restant les mêmes, quoi. Et donc, moi, je me suis dit, bon, ça y est, on y est, on va faire un jeu avec ça. Eh ben non, c'était pas possible, parce que pendant 3 ans, ça a été l'enfer. Parce que pendant 3 ans, finalement, au bout d'un moment, les développeurs eux-mêmes, et ça, on en parlera après, c'est la fonction du mythe dans le développement de jeu lui-même. Parce que ça, c'est fondamental, la manière dont l'idée se forme. Moi, j'aime bien citer Vico et la manière dont le mythe se construit, le mythe poétique se construit. C'est que. Au bout d'un moment, les développeurs eux-mêmes avaient une idée de comment ça fonctionnait. Donc les mecs, ils codaient des features, ils codaient des fonctions. Les uns, pour dire, moi, ma version de Wakfu, regarde, elle est vachement mieux que la tienne. Et quand on fait proposer un jeu entièrement sur là-dessus, et qu'on a 10 versions différentes du même objet, je veux dire, c'est foutu.
Je me souviens, les premières discussions qu'on a eues là-dessus, c'était impossible pour moi de comprendre. Tu me disais un truc et le Wakfu et la Stasis faisaient la même chose. Et tellement vous aviez.
Moi j'avais pas le choix. J'avais une communauté de joueurs monstrueuse derrière qui était là et qui était en quête de sens. Et ils étaient tous persuadés d'avoir la bonne réponse. Et moi je devais trouver une solution qui pouvait satisfaire tout le monde. Ce qui était impossible. Alors j'ai peut-être des rêves de dire oui, le jeu vidéo va pouvoir permettre de vraiment explorer les tréfonds de la réalité, le recoin de la réalité pour pouvoir exprimer tout ça, cette interaction, ce degré d'interprétation. Ben, c'est pas possible. Moi, il a fallu que Stéphane vienne m'aider pour qu'il me dise bon, sinon c'était pas possible. Le truc était en train d'exploser, quoi. C'était incontrôlable, quoi. Et finalement, ben, on l'a réglé comment? On l'a réglé avec du game design pur. C'est-à-dire en disant ben voilà, à partir du moment où on décide que c'est à ça que ça sert, rétroactivement, c'est ça que c'est.
Tout à fait. Et le truc très intéressant, c'est que. On parlait avant-hier dans une autre présentation de l'apprentissage, jeu comme médium d'apprentissage. Et pour moi, c'est ce que j'essaie de faire dans mes jeux, et je pense que c'est aussi ce que tu essaies de faire. C'est que c'est pas que de l'apprentissage, c'est un parcours initiatique. C'est un parcours quasiment chamanique, puisque le joueur, il passe vraiment des épreuves, il passe des épreuves de compréhension de l'univers, et il peut progresser que s'il comprend l'univers, que s'il intègre les règles du monde et qu'il se les approprie et qu'il les réinterprète. Et c'est très amusant que tu fasses ce parallèle avec quasiment la quête initiatique de ton équipe.
À un moment donné, le scénario, parce qu'à un moment donné, une histoire se dégage d'un jeu, quoi. Elle n'est peut-être pas en amont, parce que le monde est en amont, mais au bout d'un moment, on va dire, le seul moyen qu'on a de faire l'expérience de ce monde, c'est par des narrations archétypales. Bon, l'initiation, c'est la tarte à la crème, quoi. C'est facile, on connaît rien, ou l'amnésie, des choses comme ça. Il se trouve que l'initiation, c'est intéressant. À un moment donné, je me suis dit, le seul moyen qu'on a de finir ce jeu, c'est de faire en sorte que toutes nos étapes de développement soient mappées sur ce que le personnage fait dans le jeu. C'est-à-dire que on a une initiation qui est en cloche, et ben nous on va faire un développement en cloche, on va faire exactement la même chose et on va passer par exactement les mêmes étapes et les mêmes révélations. Quitte à ce que je sois obligé de cacher des révélations à mon équipe. C'est-à-dire me retrouver à jouer avec eux, avec des symboles et avec des choses. Alors, j'avais un grand mur blanc en fait, et le matin j'arrivais et je collais des images, je collais des mots et je mettais des mots. Et je soulignais des choses. Parce que le mot est très important. Et alors, ça, dans le développement, c'est fondamental, en fait. Parce qu'on utilise très peu le mot. On utilise beaucoup les chiffres, on utilise le code, on utilise le visuel. Mais le mot, le mot dans le jeu, c'est dans le développement, c'est très important en fait, quoi. Et moi, c'est là où je me suis rendu compte que les gens avaient besoin de ces mots et l'importance accordée à un mot, c'était incroyable. Donc, avec ces fragments comme ça, j'étais capable de leur dire voilà, je vous mets dans cet état d'esprit-là jusqu'à la prochaine milestone. Et je vais vous cacher la vérité. Et alors qu'ils avaient une soif de savoir, quoi. Mais s'ils avaient cette soif de savoir et s'il y avait cette volonté, cette curiosité, je savais que le joueur allait avoir la même en fait. Donc j'ai un peu joué avec, j'ai été obligé un peu de faire ça. Mais au bout d'un moment, ils ont fait la même chose avec moi. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à me cacher des choses. Et ils ont commencé à me cacher des choses et ils ont commencé à me montrer des choses sans même que je les... En me disant, ben regarde, j'ai fait ça. Moi, c'est comme ça que j'ai interprété. Et moi, mon attitude au début, c'était l'ego. C'était, c'est moi le chef. Non. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, si je fais ça, c'est foutu. Donc je suis obligé de prendre ce qu'il me donne, d'accepter que c'est une œuvre vraiment collective et que c'est un médium qui nous appartient à tous et que c'est cette histoire qui est la nôtre. Et je m'adapte. Et je reformule le mot. J'efface le tableau et je mets un mot qui est plus adapté à son interprétation. Et on a réussi à développer le jeu comme ça et on a réussi à s'en sortir comme ça, quoi. C'est un miracle.
Alors, oui, c'est pas un miracle parce que, ce que vous avez fait, c'est ce qui se passe dans toutes les équipes de développement, mais parfois pas bien. C'est-à-dire que le développement de jeux vidéo, ça n'a rien à voir avec une œuvre qui a un auteur. C'est même pas le cinéma avec un réalisateur ou un script. C'est le processus que décrit David où, comme il y a les gens qui viennent dans le jeu vidéo sont des gens créatifs. Donc ils veulent exprimer quelque chose, donc ils vont s'approprier les concepts du jeu, ils vont s'approprier la vision, ils vont essayer de la traduire de la meilleure façon qu'ils peuvent. Et donc il peut se passer deux choses. Les gens qui sont dans le management, même au niveau créatif, peuvent être réceptifs à ça. Et ça peut donner ça, ça peut donner ce que décrit David. Ou ils peuvent être réfractaires et ça peut donner des environnements de travail très stressants. Toute l'industrie va vers ça. Même les protocoles, les méthodologies de production qui sont en place aujourd'hui, ça s'appelle, les plus populaires, ça s'appelle la méthodologie agile, viennent de la méthodologie agile, qui intègre ça, qui intègre des itérations de production où chacun peut donner son avis, chacun peut donner son feedback et peut amener sa patte, que les créateurs à l'intérieur des équipes pour une certaine autonomie, pour pouvoir s'exprimer. Et après, il y a un bilan qui s'effectue assez régulièrement pour redonner la bonne direction s'il y a des problèmes, ou pour aller dans une nouvelle direction si c'est trop génial. Le petit bout de liberté qu'on a donné aux créatifs, ils en ont fait quelque chose de génial, bah, allez, on y va. Mais c'est nouveau, hein. Ça date de 4-5 ans maintenant dans cette industrie, oui, mais on y vient.
C'est nouveau, mais en même temps, c'est un processus qui existe depuis des millénaires. Et que, je parlais de Jean-Baptiste Avico, donc moi qui étais un penseur que j'admire énormément, quoi, qui a décrit ce phénomène-là dans la création de poésie, dans la création de mythes, en fait. Quoi. L'exemple le plus près de nous, c'est Lönnrot avec le Kalevala, c'est-à-dire qui est cette recherche d'oralité, de tenter de faire en sorte que tout le monde se retrouve, qu'il y ait des liens, et que finalement la fonction du mythographe n'est plus une fonction d'écriture, mais une fonction de lien. C'est-à-dire, quelles sont les transitions, en fait. Voilà. Et alors, dans le jeu vidéo, on est dans... C'est toute une question de transition. On est un peu dans la logique des rêves. On ne sait pas vraiment comment on arrive. C'est-à-dire, on arrive là, et puis il manque une ellipse monstrueuse entre deux niveaux, quoi. Et finalement, joueurs sont fous. Je veux dire, c'est pas un problème, quoi. Et alors, la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que l'autre gros souci, et rien que dans le terme, déjà, on y est, c'est on parle de Bible dans les jeux, souvent, dans les univers, de Bible littéraire, quoi. Rien que le mot, déjà, il fait peur, quoi. C'est une Bible. Je te pose ça. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon. Est-ce qu'un créateur, moi je suis un créateur, je reçois une Bible, quelle est mon attitude? Est-ce que je vais vouloir respecter la Bible? Est-ce que je vais la réinterpréter? Est-ce que je vais créer un culte à l'intérieur même de mon studio qui dit non, attends, ça c'est pas possible, les slips ils sont pas
Fascisme.
En pot de... Voilà, les slips ils sont pas en pot de bouc, c'est pas possible, tu vois. Et alors, il y a une réappropriation du matériau comme ça à l'intérieur même du studio, quoi. Et alors, ça peut donner des clashs monstrueux entre des gens qui sont en structure méta d'univers et les gens qui sont en exécution micro de cet univers, de cette implémentation d'univers. Et finalement, laquelle est la plus importante, quoi?
Il y a deux trucs. Il y a de moins en moins de Bible, en fait, parce que parce que le mot écrit, il est tout de suite dépassé, surtout avec l'itération de ton jeu qui va passer par plein d'étapes. Et en plus, quelque chose de très important, c'est que, si vous ne savez pas, c'est que les créateurs de jeux vidéo ne lisent pas. Les artistes ne lisent pas, les programmeurs ne lisent pas. Il n'y a que les designers qui aiment écrire et que personne ne les lit. Donc, en fait, si on écrit une Bible... Si on écrit une Bible pour décrire un univers qu'on aime tellement, avec les dragons qui font des œufs rouges et les dragons qui font des œufs bleus, et c'est tellement différent, c'est tellement génial, personne ne le lira. Ce qui va intéresser l'équipe, c'est qu'est-ce que ça fait dans le jeu. Donc on est obligé de parler en ces termes-là.
C'est vrai, moi je veux dire, moi, au début j'étais complètement utopiste, et alors chaque fois que j'écrivais quelque chose d'intéressant que je réécrivais, alors je sortais tout en imprimante, hein, et je mettais tout sur le bureau des gens pour qu'ils les lisent bien. Alors je mettais des jolies citations, c'était beau, c'était Bachelard, c'était chouette, regardez les gars, c'est beau, vide, allez, on y va, quoi. Et en fait je me rendais compte que sur les bureaux, il y avait des piles de trucs qui montaient, quoi. Et finalement ils en avaient tellement, c'était mal agrafé, c'était le chaos, et au bout d'un moment tout le monde se dessinait derrière. Ça fait comme brouillon, quoi. C'est super humiliant à un moment donné quand on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Les gars, je vous écris ça pour vous parce qu'il n'y a que vous qui allez lire. S'en foutez. J'aurais pu arriver et leur dire trois mots et ça aurait été mieux. Ils auraient fait ouais, super, allez, on y va tous les enfants, c'est cool. Ça marche aussi bien en fait.
Mais d'un autre côté, nous, on a besoin d'écrire parce que c'est pour nous.
C'est ça. Donc est-ce que le game design, est-ce que le design doc, finalement, c'est l'évolution, c'est la coordination de l'évolution du design? Voilà, c'est une espèce de work in progress permanent qui n'est fini que quand le jeu est fini, quand on boucle tout, et après on fait un copier-coller dans le how-to du jeu, et voilà, on est content. Voilà. Mais finalement, ça sert qu'à nous, quoi, parce que tout le monde s'en fout, quoi. C'est terrible. Faudrait sortir les design docs comme ça, de temps en temps, en feuillet, en livre. Ça serait marrant.
Mais donc ça veut dire que quand vous faites la conception d'un univers de jeu vidéo, vous êtes obligé à la fois de penser à la place du joueur dans cet univers, c'est-à-dire que c'est lui qui est en même temps il a une part dans la création de l'univers puisque c'est son expérience qui va pour lui donner sens à cet univers, et en même temps vous êtes obligé de penser à vos équipes, et là vous pouvez pas parler avec des mots, enfin parler avec de l'écrit, quoi. Tu es obligé de transmettre par le gameplay aussi à l'équipe de prod.
Il faut pas non plus faire un tableau, ils sont pas illettrés, quoi. C'est des gens super intéressants et super créatifs et super dynamiques. C'est juste qu'on est dans une culture visuelle. Et on est une culture de l'action, quoi. On est une pragmata, quoi. C'est faut faire les choses. Et la plupart du temps, c'est eux qui les font. En plus, c'est les gameplay engineers qui vont faire le jeu. Donc, c'est à un moment donné, nous, notre capacité, est-ce qu'elle est finalement en amont ou est-ce qu'elle n'est pas en réaction, quoi? Est-ce qu'elle n'est pas en adaptation, quoi? Est-ce qu'on n'est pas des super caméléons, en fait? Est-ce qu'on n'est pas des super guerriers de l'improvisation et de pouvoir prendre ça et ça et dire, mais en fait, c'est ça. Oh, dude. Mais oui, c'est ça. Parce qu'ils voient pas l'antre, en fait. C'est nous, on est l'antre. De certaine manière.
Ouais, et puis les équipes de création de jeux vidéo, c'est quand même des professionnels du jeu vidéo. Donc en fait, ils ont les codes, ils ont les, ils savent quoi. Et donc il faut leur montrer si on veut innover, si on veut faire quelque chose de nouveau, si on dit bah c'est ça que ça fera, il faut le montrer, il faut le prouver, il faut faire un prototype, il faut que l'équipe y joue et, pour comprendre, parce que sinon c'est pas dans le réel, sinon c'est un concept vague et imaginaire, et tu peux pas parler de ça parce que c'est pas leur métier, ça les excite pas autant. Tu vas parler d'ambiance ou de gros monstres ou à un artiste, et tu vas parler de fluidité des effets spéciaux ou de la taille du monde que tu veux qu'il y ait à l'écran à un programmeur. Tu vas pas leur expliquer pourquoi ton dieu de la fertilité il a des cornes, parce que pour toi c'est super important. Ils s'en foutent.
Et donc est-ce que le métier de game designer qui crée un monde, c'est pas créer plutôt une sorte de boîte à outils pour que le monde soit créé par l'équipe et les joueurs après?
Enfin, j'en suis intimement persuadé, quoi. Moi, je crois qu'il faut faire très attention. Après, il y a des mondes qui sont créés en amont, qui sont extraordinaires, quoi. Il y a des choses qui sont faites aussi. Je voudrais pas. C'est pas. Il y a pas tout ou rien, quoi. C'est chacun son approche, et c'est un médium qui est tellement jeune et qui est tellement difficile parce qu'on sait pas vraiment comment le faire. On sait pas. Il y a tellement de studios qui se cassent la gueule. Il y a tellement de jeux. C'est tellement dur faire un jeu, quoi. C'est tellement long. C'est que finalement, on essaye tous de se débrouiller, quoi. Donc, à partir du moment où on trouve un truc qui marche, on se dit bon, ben voilà. Mais il faut pas en faire un cas d'école, quoi. Parce qu'il y a des jeux qui marchent très bien avec des grosses bibles en amont, et parce que finalement c'est des univers que tout le monde connaît, et bah, tout le monde peut se l'approprier plus facilement parce que c'est très bien, parce que c'est managé de manière extrêmement rigoureuse. Enfin voilà, il y a pas, moi la seule chose que je peux dire c'est que pour moi le game design c'est une fonction d'interprétation du code c'est ce que je reviens à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'avant il faut qu'il y ait un jeu, avant qu'il y ait un fluide, il faut qu'il y ait un fluide avant quoi, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge pour qu'on voit quelle est la nature de la réalité de cela, parce que potentiellement tout est possible en design, on peut tout créer, c'est, on est au pays des merveilles quoi, les designers ils sont, quand, je sais plus, il y a une phrase qui dit vous êtes tous les gars quoi, vous êtes dans une espèce de monde où tout est possible. Mais non, tout n'est pas possible. Et non seulement tout n'est pas possible, mais en plus, il faut qu'il y ait déjà, c'est l'œuf ou la poule, il faut déjà qu'il y ait la poule avant l'œuf et l'œuf avant la poule. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Donc, pour rester sain, pour garder sa santé mentale et pas se tirer une balle tout de suite, ben, il faut avoir une espèce de capacité de se dire, ce jeu, le leap of faith, quoi. Si le jeu tourne, si le gameplay tourne, le monde sera. Et le monde est déjà, c'est juste qu'on ne le voit pas, en fait. C'est plus une fonction de déduction qu'autre chose, en fait, quoi. Enfin, de mon point de vue,
C'est un des grands freins à l'innovation, c'est que... c'est pour ça que beaucoup de jeux se ressemblent, et que la seule différence qu'ils ont, c'est dans l'histoire superficielle, autour des mêmes mécanismes de gameplay, c'est que ça coûte cher de faire un leap of faith, ça coûte cher de faire confiance à l'équipe en disant on va faire quelque chose de totalement nouveau qui va traduire le sens dans un gameplay différent, parce qu'il faut faut le prototyper, et prototyper un jeu, prototyper un système complètement différent, bah, ça coûte super cher et c'est risqué parce que c'est un prototype et ça va peut-être pas être bon, ça va peut-être pas être fun. Pour revenir sur ce que tu disais sur les bibles, moi un de mes jeux favoris c'est Apes Odyssey, et ils ont une bible, mais c'est une bible graphique pure, c'est-à-dire 200 pages d'études, de dessins, de créatures, de machins, de leur interaction, c'est génial, complètement génial, et là ça marche parce que c'est graphique.
Moi je rebondis tout de suite là-dessus et on boucle sur le sujet, c'est que pour que les choses ne partent pas en vrille, ça peut arriver, je veux dire, il faut un garde-fou. Et le garde-fou, alors ça peut être une bible dans certains cas, une bible graphique, etc. Mais enfin, pour moi, je pense qu'on peut passer par le motif et par le symbole. C'est-à-dire des images suffisamment saintes de sens et de possibilités, uniques, sur une page. On attrape la chose immédiatement, on n'a pas besoin de feuilleter pour comprendre, quoi. Qui est du domaine de l'immédiateté, quoi, qui est là. Et là, on est dans le symbole, c'est-à-dire qu'on invente des nouveaux signes en fait, qui sont des concrétions du monde qu'on est en train de créer, quoi. Et alors, c'est terrible parce que c'est vrai qu'on, quand on regarde les jeux vidéo, on a beaucoup ces images de planètes autonomes où on voit tout. Je pense à Populous 3, qui est un jeu que j'adore personnellement, quoi. Où on a le monde dans la main, dans le creux de la main. Mais voilà, donc en fait, c'est la création du jeu vidéo, du monde, elle est là. C'est-à-dire qu'il faut qu'en permanence le monde soit au creux de la main, quoi. Il faut qu'en permanence l'oiseau il chante là. Voilà. Et ça, c'est très très dur en fait de faire. C'est ça qui lit tout en fait. Quoi.
Mais c'est aussi la raison pour laquelle j'aime beaucoup décrire mes mythologies ou mes mondes sous forme de système. Dans un jeu sur lequel j'ai travaillé, dans un studio, j'avais créé un univers, une cosmologie à l'aide de créateurs de jeux de rôle. Et en fait, c'était une grille avec un panthéon disposé sur cette grille. Et pourquoi ? Parce que c'était à la fois la carte de notre cosmos, ça correspondait au bouton du pad pour les pouvoirs magiques, ça correspondait à... Ça se passait sur une île et ça décrivait l'île, ça décrivait les quartiers de l'île et tout ça. C'est-à-dire qu'en effet, il y avait le truc que tu pouvais maintenir dans ton esprit, que tu pouvais communiquer, que tu pouvais donner aux membres de l'équipe ça ne les intéressait pas de lire 100 pages de mythologie, pour dire, ok, tu peux toujours revenir à ça, c'est ça le jeu. Mais c'est super dur, parce que d'avoir cette mythologie, cette cosmologie, c'est un énorme boulot de la créer.
Mais nous, on est des... on coupe les cheveux, enfin, comment on appelle ça, la rétention anale, quoi. Nous, on a envie de tout savoir. Après, le joueur, il faut savoir que lui, ce qu'il voit, c'est ce qu'il a envie de voir dans ce spectre-là, et sa curiosité, elle s'arrête à son spectre, quoi. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que le seul endroit où une mythologie a vraiment droit de citer aujourd'hui dans le jeu de vidéo, c'est dans le MMO, quoi. Enfin, et je ne citerai pas WoW, parce que WoW, c'est déjà prédigéré, prémâché, c'est Disneyland, quoi. Mais EVE Online, moi, qui est un jeu que j'adore vraiment, quoi, voir comment fonctionne l'invisible dans EVE Online, et l'histoire dans EVE Online, où tout est drivé par les joueurs, en fonction de leurs besoins, en fonction de ce qu'ils ont envie de savoir et ce qu'ils ont envie de voir, et que finalement, l'ensemble de la mosaïque, au bout d'un moment... créer une image de loin, un peu comme ce tableau de Dali, tu sais, où voit le visage de Lincoln, plus on s'éloigne, plus on voit le visage de Lincoln. Ben, c'est exactement ça, quoi. C'est, on est dans le fragment, on est dans la manière dont les fragments s'assemblent, on est dans les harmoniques, quoi. On est dans tout ça, quoi. Et je crois que c'est ça qui est important. J'aime bien citer Second Life pour ça. Enfin, Second Life n'est pas particulièrement un endroit qui est très fréquentable. Je conseille à personne d'y aller. Mais par contre, il y a un truc que je me suis rendu compte très vite, c'est la texture du monde et la texture de la pourriture dans ce monde, quoi. Et quand on se dit, ouais, c'est laid. Non, c'est pas laid. Tout est créé par les joueurs. Donc ils créent ce qu'ils ont besoin. Et quand on prend la map et qu'on la redresse comme ça, et qu'on tire la caméra vers l'arrière et qu'on voit ce qui se passe, on arrive à des textures qu'on ne voit nulle part ailleurs, qu'on pourrait jamais voir dans la réalité, des compositions complètement folles qui dépassent totalement les règles de la perspective, qui dépassent les règles de la gravité, qui dépassent les règles du bon goût même. On est vraiment dans le dégueulis virtuel, et c'est totalement fou parce que finalement on arrive à quelque chose qui n'existe pas, quoi. Et est-ce que c'est pas, enfin, est-ce que là on n'est pas dans le mythe, quoi? Est-ce qu'on là on n'est pas vraiment dans l'essence du jeu, quoi?
Il y avait une expérience de Zé Frank qui demandait à une communauté de créer les pages web les plus moches possibles.
MySpace.
Et le truc, c'est que pour arriver à créer une page web moche, il faut connaître des trucs en esthétique, en design. C'est pas si facile que ça, quoi. On peut pas passer un jugement. Je vais reprendre ce que tu disais sur la mythologie et les jeux multijoueurs. Je pense qu'il y a quand même vraiment la place pour un travail sur la mythologie dans les jeux à un joueur. Mais traduit dans le gameplay. Enfin, je veux dire, bon, BioShock, c'est ce à quoi ils tendaient et ce qu'ils voulaient arriver à faire. Bon, il se trouve que les choix qu'ils proposaient n'étaient pas des vrais choix. Mais pour le joueur, il ne sait pas que c'est pas un vrai choix. Donc l'illusion est là. Mais je pense à des jeux comme Loom, qui est du genre, bon, c'est des vieux jeux, mais c'est complètement extraordinaire, de Brian Moriarty, où on découvre le mythe par les sorts qu'on utilise et avec lesquels on transforme le monde.
Non, mais tu as totalement raison. Je veux dire, c'est pas un abus de dire ça, bien au contraire. C'est juste que j'ai l'impression, bon, je peux me tromper, hein, je suis peut-être encore une fois un peu trop idéaliste, un peu trop utopiste, mais j'ai l'impression que les mythes, on a besoin d'en créer des nouveaux et on a besoin que ce soit vivant. C'est-à-dire qu'un mythe, c'est juste un moyen de rendre le monde moins silencieux, peut-être, d'une certaine manière, ou moins chiant, j'en sais rien, ou silencieux peut-être. Mais enfin, je ne dis pas que le monde est silencieux parce qu'il y a du bruit partout, c'est la nature autour de nous, mais silencieux en termes de sens qu'on peut attraper, qui ne soit pas un sens religieux. Voilà. Qui soit pas un sens dogmatique, qui soit un sens, je dirais pas narratif, parce que pour moi c'est un gros mot maintenant, mais enfin je sais pas, une espèce de composition comme ça, de choses très belles en disant, si Poséidon est pas content parce qu'il y a une tempête, bon bah voilà, mais une tempête, qu'on dise que Poséidon soit pas content ou qu'il y a une tempête, finalement ça revient exactement au même, quoi. Et bon, pour moi, on a besoin, si on a envie de continuer à travailler sur l'invisible et de faire en sorte que l'invisible ait une part importante dans la création de jeux interactifs, on a besoin de rendre le mythe vivant. Alors, Loom est un jeu, personnellement, enfin, c'est un de mes jeux favoris de tous les temps, quoi. Mais c'est un mythe qui est fini. Nous, on peut continuer à alimenter dans nos discussions, dans notre passion, dans notre défense, mais le monde est fini de Loom. C'est un monde à la dérive. C'est un monde complètement. Alors, un mythe vivant, en fait. Voilà, moi, c'est plus ça que je disais. Est-ce que le mythe vivant est possible dans un jeu fini, AAA, Gold?
Ça dépend de l'expérience que tu veux fournir à ton joueur. C'est-à-dire que parfois, tu veux que l'histoire s'arrête ou qu'il y ait un moment d'accomplissement et que ça soit un but en soi. Pour moi, les mondes que tu décris, c'est les mondes Nintendo qui ont un accomplissement, mais parce que tu manipules directement les symboles. Le monde de Mario, le monde de Link, de Zelda, sont des mondes qui sont uniquement faits de briques de Lego qui sont des symboles fonctionnels. C'est-à-dire à la fois c'est symbolique et à la fois c'est purement fonctionnel. Il n'y a pas d'objet qui a deux utilisations possibles dans le monde de Zelda ou le monde de Mario, mais la combinaison de ces objets, la combinaison de ces symboles fait que on peut donner un sens nouveau, on peut donner une fonction nouvelle à ces combinaisons d'objets. Et pour moi, c'est, alors bon, on va pas dire nécessairement qu'ils atteignent au mythe, mais pour moi c'est la voie, c'est-à-dire qu'avec ce même matériau, avec cette même démarche de Lego symbolique, qu'on puisse créer des histoires que le joueur lui-même manipule et que mais pour moi la fin est importante, je veux dire le but, que le joueur puisse créer les conditions d'une apothéose, d'une résolution, d'une révélation, c'est super important.
Et là, on rentre dans la fonction, on rentre dans la trace, dans la piste. C'est-à-dire que j'ai cette expérience-là, j'ai ce contexte-là, et je sais qu'on l'a, je sais qu'il existe en tant que lui-même, comme les anciens, comme les primitifs, enfin, je dirais pas les primitifs, mais les anciens, organisaient leur maison autour de l'âtre de la création, où tout était finalement envisagé et tout se créait. Et voilà, moi c'est quelque chose que j'ai été confronté récemment parce que je n'étais pas capable de m'organiser dans ma vie. C'est une catastrophe. Moi j'étais complètement incompétent en termes de cuisine, en termes de domotique, on va dire quoi. Et que je me suis rendu compte, quelqu'un m'a dit, mais finalement ce qui est important c'est d'accepter les traces que tu laisses et de marcher dans les traces que tu laisses et de ne pas se dire que les choses doivent être dans un ordre précis, elles sont dans l'ordre dans lequel tu les laisses quoi. Et j'ai compris ça avec Animal Crossing. Complètement fou quoi. Bah ouais, mais moi j'ai appris à ranger ma chambre avec Animal Crossing, c'est la vérité quoi. C'est un truc que je dis à tout le monde et c'est vrai. Bah je ne savais pas ce que ça voulait dire que d'occuper un espace avec des traces, un espace organisé. Bon alors il se trouve que dans Animal Crossing c'est une espèce de sous feng shui avec des couleurs, mais ça peut finalement fonctionner avec n'importe quel système dans lequel on a pu injecter une émotion, une sensibilité quoi. Non.
Très bien, on s'approche un peu de la fin de du temps qui nous est imparti pour la conférence. Est-ce que des gens ont des questions pour
Le voilà. Petit Fabien, encore ?
Oui, t'as pas une impression de déjà vu.
Tu n'étais pas là l'année dernière déjà.
Il y a la même place et je vais poser la même question parce que je ne comprends rien à ce que tu réponds. Donc Fabien Velman, scénariste classique préhistorique. Je suis très intéressé par tout ce que vous dites sur le jeu vidéo parce que ça m'est complètement étranger et que je suis encore dans un schéma justement assez archaïque d'écriture, à savoir... je dirige tout et ensuite je donne ça à un lecteur et il se débrouille, il aime pas. Ce qui m'intéresse vachement, c'est l'aspect interactif que vous décrivez. Une question pratique, si j'ai bien compris, vous êtes donc extrêmement réceptif, je parle au niveau des développeurs, réceptif à ce que ces développeurs vont vous dire, est-ce que c'est faisable, pas faisable, etc. Est-ce que pour autant, à chaque fois, vous avez quand même une espèce d'arc narratif classique en tête, du style, moi mon histoire, si j'avais pu la faire, elle irait jusque là, quitte à l'abandonner d'un seul coup si un développeur trouve une autre piste qui est vraiment intéressante et de reconstruire un autre arc narratif, ce qui est quand même un gros boulot, ou est-ce que vous partez vraiment dans le brouillard ? C'est-à-dire que vous dites, ben, on se laisse aller et à chaque fois qu'il y a une bonne idée, on la suit. Si je suis clair.
Oui, t'es clair. Non, non, déjà, t'es pas archaïque, préhistorique, je veux dire.
Merci, ouais, David.
T'entends un peu, quoi. On n'est pas là pour dire il y a tout ou rien. C'est juste qu'il faut envisager des nouvelles manières de faire les choses tout le temps. Enfin, c'est tout, voilà. Après, je crois qu'il y a un peu des deux, quoi. Je pense que si on n'a pas une idée d'où on va, c'est mort, quoi. Je veux dire, il faut avoir une idée d'où on va. Mais je vais te donner un exemple concret de ce qui s'est passé sur notre jeu. C'est que nous, on était obligés de coller au background de la saison 2 de la série télé, de Wakfu. Bon, ben. Va écrire un background qui se transforme en même temps qu'une série télé, qui n'est pas faite, d'accord, et qui est en train de se faire. J'ai réécrit mon scénar 200 fois, et c'est pas une blague, quoi, vraiment, et c'était archaïque, c'est-à-dire que, elle se lève, elle est réveillée par la déesse lui dit qu'il faut qu'elle s'initie, puis alors elle passe le premier voile là, et puis là, il se passe une catastrophe, là, l'abeille, elle meurt, bon, c'est terrible. Bon, moi aussi, enfin, je veux dire, on est obligé aussi de jouer avec ça, on n'a pas le choix, on est dans un monde, le storytelling, ça fait partie aussi de ces choses-là, donc, je pense pas qu'on puisse s'en affranchir, on peut s'en affranchir dans des sandbox, dans SimCity, dans Viva Pignata, dans des mondes online, où finalement, l'arc narratif n'a pas d'importance, il a une importance, on va dire, de quête, parce que tu mets une quête l'une après les autres, mais finalement, que tu cliques sur un point d'interrogation et que tu as tué un mob, finalement, tu t'en fous de l'histoire qu'il y a derrière. L'important, c'est de faire l'acte, quoi. Donc, je peux pas dire oui et non, c'est oui et non, parce que ça dépend du jeu que tu fais, ça dépend de ce que tu fais, et le storytelling fait aussi partie des expériences de jeu, parce qu'on est dans des expériences immersives, parce qu'on est dans des couloirs, quoi, parce que les gens, ils ont envie d'avoir une résolution. Nous, on m'a dit, la fin, elle est pas satisfaisante, il manque une cinématique. Il manque un accomplissement, quoi. Il manque la fin. Ah ben voilà, j'ai fait tout ce chemin pour voir un dénouement. J'ai fait tout ce chemin pour voir cette révélation. J'ai cette révélation. C'est pour mon narratif, c'est archaïque si tu veux, quoi. Mais bon, en même temps, on se raconte des histoires depuis la nuit des temps, donc on sera archaïque tout le temps, quoi. Je veux dire, après, il y aura des endroits où on va pouvoir créer des expériences nouvelles de création communautaire, collective, voilà.
Mais on est d'accord que cette fin, ce climax, pour reprendre des termes justement de narration classique, c'est pas forcément celui que tu avais en tête au début de ton histoire.
Pas du tout. Non.
Tu as été obligé de t'adapter un million de fois.
Totalement, la fin, moi je connaissais pas la fin avant il y a un mois.
D'accord.
Deux ans de développement. Hein. Je ne savais pas comment le jeu se terminait, je ne savais même pas ce qui allait se passer. Enfin, il l'a vu, quoi. Il a vu le nombre de mes itérations. Quoi. J'ai compris à la fin, j'ai eu une vision, je me suis dit, ok, alors il y a ça, je vais écrire. Alors j'ai écrit une page entière et puis je l'ai filé à mon équipe. Ils m'ont dit, ok, ça marche. Tout est résolu là-dedans, tout se résolve là-dedans, ça marche. Mais il y a deux mois, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer.
Ce qui est rassurant, c'est que je fais pareil avec mes albums, mais en fait, je fais croire à l'éditeur que c'est prévu depuis 10 ans.
Ouais. Je peux dire, j'ai la même expérience que toi, mais la façon dont j'essaye de contrôler ça, c'est que, et je pense que c'est la même façon dont tu le fais, c'est que, encore on en revient aux règles du monde, c'est qu'on sait ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, et même si on change l'histoire 2000 fois, on la change toujours dans un cadre. C'est très coûteux de remettre en question les règles, parce que c'est celle qui implique qu'on va changer le gameplay. Donc en fait, même si l'histoire ne va pas être la même, même si le dénouement n'est pas pareil, on a une idée d'où on va. On a une idée d'où on va, même si l'instanciation de cette idée n'est pas claire.
Voilà. Il y a un autre truc aussi qui est par rapport à la BD intéressant dans le jeu vidéo, c'est que surtout quand t'as pas beaucoup de sous et que t'es obligé de faire des bonhommes qui bougent pas et qui sont là, tu cliques dessus, ils ont une bulle, c'est que tu peux mettre ce que tu veux dans la bulle. Et qu'à partir du moment où ça colle à peu près avec le fait que le personnage n'a pas d'expression, tu peux avoir n'importe quelle expression, on peut être content, on peut être pas content, on peut être vénère, il peut être en train de mourir, on s'en fout finalement, c'est juste un mec qui est là, tu vois. Donc finalement, je me suis retrouvé à la fin du jeu à réécrire les trois quarts des dialogues. Parce que je me dis, si je veux arriver à telle résolution, alors non, alors à ce moment-là, lui, il peut pas dire ça, il est obligé de dire autre chose. Dans BD, tu refais faire le dessin. Moi, j'ai pas besoin de refaire faire le dessin, je prends mon éditeur, je change le dialogue. Et personne ne voit rien.
Donc tu as réécrit les choses en après coup, a posteriori, en sachant où tu allais. Quoi.
Winston Smith dans 1984 au Times. D'accord ? C'est ça, tout le temps, en permanence. C'est-à-dire que si tu réussis à réécrire le mot, tu réécris la quête, tu réécris le sens de ce qui se passe. Il peut, à un moment donné, j'ai une abeille qui devient... Qui aime bien manger du miel de Wapfu, qui devient très très grosse et qui devient fond parce qu'elle mange tout le temps, tu vois. Et on n'arrivait pas à... on avait déjà fait une quête et compagnie et ça marchait pas. Et ben on m'a dit, mais alors pour faire en sorte que ça marche, et ben j'ai juste changé le nom de la quête et changé les dialogues de l'abeille, quoi. Et ça marchait de la même manière, puisqu'une abeille, elle a pas d'expression, c'est un pixel bleu, quoi. Tu lui fais dire ce que tu veux, elle peut être super triste, elle peut être super stressée, ça peut être terrible, ça peut être la fin du monde ou ça peut être une extase complète. Donc en fait, nous on a ce... Mais ça, c'est du low cost, quoi, parce que c'est vrai que dans un jeu où tu vas avoir des animations faciales, où il y a tout ça, c'est peut-être un peu plus coûteux. Après, dans un jeu standard, c'est beaucoup plus facile, quoi, quand tu as 3 pixels. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a cette capacité de réécriture et de révisionnisme dans le jeu vidéo, en fait, qui pour moi fait partie intégrante du processus, en fait. Voilà, qu'on n'a pas en écriture en BD, par exemple. En roman, c'est peut-être un peu plus simple, ouais, aussi. Mais c'est peut-être pour ça qu'aussi, il y a des gens qui prennent 10 ans pour écrire un livre, quoi. Tu vois.
D'autres questions ?
Je vais peut-être dire une énorme bêtise, donc mes excuses par avance. Et en plus, je suis même pas sûr d'arriver à le dire clairement. Mais en fait, donc de ce que vous dites quand même, j'ai l'impression de considérer quand même plus le jeu vidéo, la grammaire du jeu vidéo, comme une grammaire de l'action. Donc créer un média pour que les gens créent derrière, et donc où la narration est quand même plus déportée du créateur vers le joueur. Est-ce que finalement cette quête-là n'est peut-être pas condamnée à un absolu idéaliste, un butoir. Imaginons, dans très longtemps, si on a le processing power qui va bien, un jeu où le gameplay serait totalement émergent à partir des actions elles-mêmes du joueur. Et à partir de là, qu'est-ce que devient le média ? Est-ce que c'est pas limite, ça serait pas limite atteint de l'oulipo en littérature, la musique concrète en musique, etc. Est-ce que cette quête de la création des portées vers le joueur n'atteint pas finalement n'est peut-être pas appelée à atteindre une limite, et qu'est-ce qui se passe après ?
Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et oui, il y a une limite si en effet on reste dans la grammaire de l'action, parce que le problème, la barrière, elle est dans essayer de comprendre ce que fait le joueur et ce que veut le joueur. Donc en fait, la prochaine étape, c'est de passer dans une grammaire de l'intention, que le joueur puisse exprimer clairement son but au jeu, et que le jeu en prenne compte. Et quand tu es dans l'action, c'est assez simple. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'appuie sur le bouton, mon épée tombe sur la tête du monstre, et parfois même, ça fait une super cascade. Et l'intention et l'action sont couplées, même elles ne font qu'une. Mais si on en reste là, on en va dans le mur. Donc il faut aller au-delà. Et l'intention, c'est pas juste l'intention à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire, j'aurais envie que le gentil gagne. Tu vois? Mais ça peut être l'intention même quant à l'expérience. Et c'est quelque chose qui a été complètement négligé dans les jeux vidéo jusqu'à présent, de dire « Oh, ça j'aime bien, je voudrais plus de ça », ou « Berk, non arrête, me fais pas de ça ». Pourquoi les jeux permettent pas de faire ça ? On a la technologie pour le faire, c'est juste une question de design, une question de volonté. Donc,
Très bien, il est maintenant l'heure, moi qui ai d'autres, une dernière question, mais je crois qu'il faut qu'on en reste là. Bon, merci David, merci Stéphane.
Merci
à vous de nous avoir écoutés.